Nous allons dans Romains au chapitre 8, et c'est ce que nous allons considérer en partant. On va voir, comme à l'habitude, d'autres versets à travers le message, mais on commence dans Romains 8, on va lire les versets 5 à 11 comme point de départ pour le message. Romains 8. Alors, on a parlé de Romains 7 un matin, dans le désert. Ben là, on sort du désert. On est en Canaan.
Amen.
Ben oui, puis notre série, c'est la, on aurait pu appeler ça la vie en Canaan, par Jésus-Christ. Parce que je vous rappelle, le nom que j'ai donné à la série, c'est la vie victorieuse en Jésus-Christ. Et on va voir aujourd'hui notre choix face à la chair. La semaine passée, on a parlé du monde, rappelez-vous, notre vision du monde, la perspective que le monde voudrait qu'on ait, comment lui veut nous vendre ses vanités pour essayer de combler notre besoin d'avoir notre sécurité, notre valeur, puis notre acceptation. Tout ça, c'est faux. On trouve ça vraiment en Christ et lui seul. Mais la chair aussi joue un rôle dans ce combat spirituel, dans cette guerre spirituelle. Et ce qu'on va considérer aujourd'hui, on est au verset 5 de Romains 8. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » J'aimerais vous faire remarquer le verset 9. « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon l'esprit? Et des fois, hein, on entend un message, puis le prédicateur il dit, il faut marcher par l'esprit, il faut vivre selon l'esprit. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message va répondre à ça du côté positif et du côté négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pas, puis c'est quoi les obstacles avec spécifiquement la chair. Mais aussi, vraiment, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire de marcher selon l'esprit de façon authentique, puis c'est quoi aussi les subterfuges? Les contrefaçons. OK? On va tout regarder ça dans ce message-là. D'où l'importance vitale de faire le bon choix face à notre chair. Mais avant de se pencher là-dessus, je veux juste clarifier quelques points concernant la chair. Vous savez que notre chair n'a pas été éradiquée au moment de notre salut. Ça serait le fun, hein? Hey, mais bon, c'est pas ça. Mais le mot qui est utilisé, katargeo, c'est ça, c'est en grec. Là. Je parle grec couramment. Là, je vais vous prêcher en français aujourd'hui. Là. Mais le mot qui est dans la Louis II qu'on a, ça dit réduit à l'impuissance. Certaines versions vont dire anéanti. Mais réduit à l'impuissance, je trouve que c'est une bonne traduction parce que l'idée, c'est que son pouvoir a été brisé. L'emprise de la chair, le règne de la chair dans notre vie a été cassé. C'est plus la chair puis le péché qui règne dans notre vie. OK? Ça dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché, c'est notre chair, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Mais c'est ça, la chair est encore une puissance active dans nos vies. Alors la question, comment je fais pour vaincre cette chair, puis vaincre la propension qu'elle a au péché? Et je vous rappelle qu'on a tous une chair, mais on n'a pas tous les mêmes propensions de notre chair. Certains ont une chair qui les amène vers tel type de péché. Souvent, on a notre petit mélange maison. C'est une sorte de péché-là, puis un autre en a un autre, puis OK. Nous, on ne peut pas, mais Jésus-Christ peut. On ne peut pas vaincre, mais Christ peut vaincre. Tout le temps. Toujours. Alors, même si le péché est encore là et même attirant pour notre chair. Et qu'en duo avec le monde qui veut essayer de nous faire croire que c'est de cette manière avec la chair qu'on peut remplir les besoins légitimes de sécurité, d'acceptation et de valeur ou d'importance. Et c'est toujours de façon... La chair et le monde veut nous faire remplir ces besoins-là légitimes, mais de façon illégitime, en dehors des paramètres établis par Dieu. Par exemple, on a des besoins légitimes relationnels, OK, depuis toute notre enfance. Puis, on peut trouver dans les relations de la satisfaction puis tout ça. Mais le monde va dire, si t'es beau, si t'es intelligent, si t'as ça, le statut, là, tu vas être accepté puis tout ça. Tu vas trouver ta sécurité, ton acceptation là-dedans. On a parlé de ça la semaine passée. Mais c'est pas les paramètres dans lesquels Dieu a établi ça. Dieu nous a dit, je t'ai fait de cette manière-là. Dieu a fait des Jean-Pierre, des Jonathan, des Linda. Puis il peut combler chacun ses besoins en Jésus-Christ comme il l'a fait. Donc, c'est pas ce que je suis ou ce que je devrais être, ce que je suis pas. C'est ce que Dieu a fait de moi. Et c'est là que mon besoin va être comblé lorsque je me confie en ce que Dieu a fait. Puis comme on l'a vu, c'est ça. Pour avoir la victoire et la liberté, nous devons faire un choix d'agir selon la vérité. La vérité est là. On est mort au péché, vivant pour Dieu. Si on est racheté par le sang de Christ, quand on est un enfant de Dieu, maintenant, on doit agir selon ça. C'est pas juste quelque chose qu'on doit savoir dans notre tête. On doit agir comme étant vrai. Donc, à cause de ça... On va voir la différence dans notre vie parce que c'est pas juste une théorie, on agit selon ça. Pourquoi j'irais dans ce péché-là? C'est plus mon maître, c'est plus mon identité, c'est pas ce que je suis. Donc j'agis selon ça, comprenez-vous? Pourquoi je m'inquiéterais si mon Dieu est souverain? Pourquoi j'essaierais de me satisfaire avec les choses que ma chair veut si j'ai la satisfaction en Christ, si Christ est satisfaisant? Et donc, c'est ça. Le péché, notre ancien maître, a été vaincu. On n'est plus dans la situation de misérable que je suis, mais on est dans la liberté de la loi de l'esprit de vie qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Et donc, le choix face à notre chair, puis je termine mon introduction avec ça, il est double. Le choix qu'on a à prendre quotidiennement avec notre chair, c'est même si on n'a plus à penser, à agir selon la chair. On a besoin de choisir de penser selon la vérité. On doit choisir la vérité. Parce que le laisser aller, le par défaut, ben on va prendre le côté de la chair. Donc, on doit prendre le choix conscient d'agir selon la vérité. Et même la deuxième facette par rapport à notre chair, au choix qu'on a à faire, c'est que même si le péché n'a plus de puissance sur nous, on a besoin de décider de ne pas lui céder. Parce que oui, il n'y a plus de puissance sur nous, mais si on va et on le cajole, puis on le dorlote, bien, évidemment que l'on lui donne la puissance d'agir dans notre vie. OK? Ça, c'était juste en matière d'introduction. Maintenant, on va regarder ensemble trois éléments à bien connaître et à comprendre face à notre choix sur notre chair. Le choix sur notre chair. D'abord, le premier élément qu'on doit bien comprendre et connaître, c'est qu'il y a trois types de personnes en relation avec la chair. Saviez-vous ça? En fait, il y a trois types de personnes, point à la ligne, là, mais on a ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, puis jusqu'au début du chapitre 3, là. Mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit que il y a l'homme naturel, OK? L'homme naturel, qui ne comprend pas les choses de Dieu. Vous pouvez le lire avec, je vais lire avec vous autres, là. 1 Corinthiens 2, juste pour vous le lire comme il faut. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme spirituel, c'est l'homme qui est mort dans ses offenses et ses péchés. On a parlé ce matin, hein, c'est celui qui est décrit dans Éphésiens comme marchant selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça nous dit, nous étions, nous aussi, de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On vivait, c'était ça qui nous dirigeait, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est l'homme naturel. La personne qui n'est pas encore sauvée, régénérée, il vit physiquement, mais il est mort spirituellement. Il est séparé de la vie de Dieu. Et il vit de façon indépendante de Dieu. Ses actions, ses choix sont totalement sous la direction de sa chair. Ensuite, dans le verset suivant, ça nous parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, l'homme spirituel est à l'opposé du naturel. Puis on voit qu'il y a un entre-deux, là, mais ça, c'est l'état normal de la vie chrétienne. OK? On n'a pas à se penser bon si on est spirituel. C'est l'état normal dans lequel on devrait être. En tant que chrétien, OK? Si on est un enfant de Dieu, c'est l'état dans lequel nous devrions être. C'est quelqu'un qui est transformé parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Son esprit est lié à l'esprit de Dieu. Dieu l'a rendu à la vie, lui qui était mort. Il jouit du pardon de Dieu et à cause de ça, il est accepté, il est en sécurité, puis Dieu lui donne une valeur éternelle. Il est dirigé par l'esprit de Dieu au lieu d'être dirigé par sa chair. Pourquoi? Parce qu'il est transformé par le renouvellement de son intelligence. Sa vie émotive est caractérisée par la joie, la paix, au lieu de la tourmente. Il marche par l'esprit, puis produit ainsi le fruit de l'esprit. Et c'est un choix, on va le voir dans la fin du message. Il possède encore la chair, mais il ne la laisse pas diriger, parce qu'il vit à la lumière de son union avec Jésus-Christ. C'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et s'il vit encore dans la chair, il vit dans la foi au Fils de Dieu qu'il a aimé, qu'il a livré, qui s'est livré lui-même pour lui. Ça, c'est l'homme spirituel. C'est l'état normal. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Maintenant, il y a un troisième type de personne en relation avec la chair. Après, l'homme naturel, l'homme spirituel. Dans 1 Corinthiens 3:3, 3:3, ça dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Le troisième type d'homme, c'est charnel. Spirituellement, il est vivant en Jésus-Christ. On parle de quelqu'un ici qui est sauvé, mais qui n'a pas choisi de suivre la direction intuitive du Saint-Esprit dans sa vie, mais plutôt les pulsions de sa chair. Comment sa chair le dirige. Sa vie quotidienne ressemble souvent à s'y méprendre à celle d'un inconverti. Comme Lot était à Sodome et Gomorre, on va dire, c'est quoi qu'il y avait bien différent des autres? On sait qu'il tourmentait journellement son âme, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Puis il était même à la porte de la ville, puis tout ça. OK? Son esprit est rempli de ou assailli par des mauvaises pensées, des émotions négatives contrôlantes. Il est dans l'angoisse, il est dans la colère, dans l'amertume, OK? Même son corps montre des signes de stress par rapport à ça, parce qu'il y a un lien entre nos pensées puis notre corps, nos émotions. Sa vie est en opposition avec son identité en Jésus-Christ. Autrement dit, il vit un mensonge. Il dit, ben c'est le même que j'ai toujours été. Puis, je dis, ben non, mais c'est vrai que tu as toujours été même. Oui, mais tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu vis un mensonge parce que tu ne vis pas selon ce que Dieu a fait de toi. Tu vis selon ce que tu étais. Tu ne vis pas selon ce que tu es devenu. Grande différence. Laissez ça reposer dans vos cœurs. Méditez là-dessus. Vive un mensonge. On ne le voit pas tout le temps de même. Ben non, tu sais, c'est vrai. J'ai tout le temps été le même. Oui, mais c'est plus ce que tu es. Tu vis selon quelque chose que Dieu a pris, s'est occupé. Et souvent, cette personne-là, écoutez bien, se sent inférieure, insécure, inadéquate, coupable, anxieuse, puis aux prises avec des doutes. Et malheureusement aussi, cette personne-là lutte et pognée en bon québécois avec des péchés tenaces dont elle n'est pas capable de se débarrasser. Puis le cri de cette personne-là, c'est « misérable que je suis ». Ce cycle, ce style de vie, de choix se résume par le mot misérable. Comme on l'a vu dans le désert, c'est quelqu'un qui vit dans le désert, c'est quelqu'un qui vit dans Romains 7, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve en moi cette loi dans mes membres qui lutte. OK? Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Et donc, la réalité pour quelqu'un qui se laisse diriger par sa chair de même, vit des échecs répétés, retombe dans des patterns de péché. Avez-vous déjà entendu l'expression « comfort food » ? La nourriture, juste pour, pas pour la nutrition, juste parce que ça nous fait bien sentir. Du commérage, péché sexuel. Et finalement, cette personne-là finit par perdre espoir et conclut que... Ah, tu sais, le verset dans Corinthiens là, qu'on a vu un matin, que toute tentation nous est survenue, qu'il n'y a pas de tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos moyens. Ben ça, ça doit être bon pour le gars assis à côté de moi à l'église, mais c'est pas bon pour moi. Et pour résoudre cet impact, cette impasse que quelqu'un dans laquelle quelqu'un peut se retrouver, ça nous amène au deuxième élément, les obstacles à la croissance chrétienne. Parce que juste avant de passer à ce point-là, peut-être que vous dites, ouais, moi je suis vraiment dans la catégorie numéro 3, je me sens vraiment pas comme le spirituel et tout ça. Comme je disais, non, c'est la norme, puis non, qu'on peut avoir ça. Le vivre à divers degrés. Mais j'aimerais surtout vous dire que si vous êtes pris avec la chair, la pire affaire qui peut vous arriver, c'est de perdre espoir. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Là où la chair veut prendre le dessus, l'Esprit de Dieu est plus fort. Faut pas qu'on perde espoir. Quand on perd espoir, on lâche la serviette et on regarde pas à bonne place. On regarde à nous-mêmes au lieu de regarder à Dieu. Donc, les obstacles à la croissance spirituelle, si vous vous sentez charnel en ce moment, ou disons plus charnel que spirituel, flagellez-vous pas, découragez-vous pas. Dieu, savez-vous quoi? Il vous aime autant que la personne spirituelle. Si vous êtes un enfant de Dieu, là, vous êtes aimé d'un amour parfait. Vous êtes dans le bien-aimé. Dieu ne peut pas vous aimer plus. Il vous aime parfaitement. Ça aussi, c'est bon à méditer là-dessus. Pas pour excuser le péché puis s'excuser dans un état misérable. Mais de pouvoir s'accrocher puis avoir de l'espoir que Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un dans un état misérable de même. Et que Dieu veut nous libérer. Maintenant, c'est quoi les obstacles? D'abord, la tromperie. Lorsque quelqu'un se laisse aller à la direction de sa chair, il manque de discernement spirituel. C'est pour ça que ça dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Hein, justement, la chair a une logique, une façon de marcher, puis on se conforme au siècle présent, mais non, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, puis là, vous allez comprendre, vous allez avoir le discernement spirituel, vous allez discerner que la volonté de Dieu, là, est bonne, est agréable et parfaite. Ça, c'est quand on marche par l'esprit qu'on se rend compte de ça. Quand on marche par la chair, ça a l'air inatteignable, ça a l'air quelque chose de bien lointain, mais quand on se confie en Dieu, on s'en rend compte. Lorsque on pense selon la chair, on est de plus en plus ancré et on s'enracine dans l'ensemble des aspects de notre vie, dans des façons de penser qui créent ce qu'on appelle des forteresses. Puis je vais vous en donner une couple là, mais juste pour expliquer c'est quoi une forteresse. Une forteresse, c'est quand que il y a quelque chose dans notre vie qui est plus fort que nous, puis qu'on est peur de s'en débarrasser. Puis c'est pas nécessairement un péché qu'on fait, souvent ça va se traduire par ce qu'on fait, mais ça commence par une façon qu'on pense. Parce que écoutez bien, à la lumière de ce que je viens de dire, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ça ne dit pas les actes de péché. Les raisonnements, c'est ça qui nous amène à pécher. C'est les raisonnements. Et tout autant, l'autant, ça parle de l'orgueil, de vouloir résister à la volonté de Dieu ou insister sur notre volonté. Donc, nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, justement, de connaître que Dieu, là, sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite, que Dieu est toujours vrai, bon, fidèle. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, la tromperie, ça joue un rôle énorme. Puis cette tromperie-là, c'est des façons de penser qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Puis comme on l'a vu, là, selon la perspective qu'on a du monde et tout ça, comme on l'a vu la semaine passée, il y a vraiment un suivi avec ce qu'on a vu la semaine passée. Et ces domaines de tromperie deviennent incrustés dans la fabrique de la vie chrétienne où est-ce qu'on se met à penser, comme je disais tantôt, ça marche peut-être pour un autre, mais pour moi c'est différent. Ça, c'est une forteresse. On a perdu espoir. Ah ben ouais, lui, je suis content, il marche en victoire, mais moi, c'est pas pour moi. Ou je pourrais jamais avoir une foi vivante et victorieuse comme un tel, un tel, un tel. Ou Dieu ne peut pas m'utiliser dans l'état spirituel dans lequel je suis, c'est irrémédiable. Tout ça, c'est des forteresses. Avez-vous vu comment il n'y a pas d'espoir dans ces forteresses-là? La puissance de l'espoir, puis l'espoir n'est pas en nous, est dans Christ, notre victoire. Il y a un mais Dieu là-dedans. Encore, on peut dire, ah, je pourrais jamais, mais Dieu est capable. Ah, ça marche peut-être pour un autre, mais Dieu peut faire que ça marche aussi pour moi. Ah, Dieu ne peut pas m'utiliser dans l'état dans lequel je suis, mais il peut changer mon état. Mais Dieu peut changer mon état. Donc, la réponse, c'est la foi. La réponse à ces forteresses de tromperie dans nos pensées, c'est ce que Dieu a révélé sur lui-même et sur ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et c'est vraiment puissant que si on ne laisse pas aller, ça va avoir toutes sortes de conséquences. Puis c'est tellement important que, vous allez voir, plus tard dans la série, on va passer beaucoup de temps juste à regarder comment renverser ces forteresses. Là, je n'y vais pas beaucoup en détail, mais parce que plus tard, on va développer ça. Donc ça, c'est une première chose, un obstacle à la croissance spirituelle, la tromperie, nos pensées. Aussi, les conflits non résolus. Les conflits non résolus. Écoutez bien ce que ça dit, c'est très simple. Deux petits versets, Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, si je ne deal pas avec le problème, si je ne le règle pas bibliquement, que ce soit un problème de colère, d'amertume, un problème relationnel, si je ne le règle pas dans mon cœur, puis que je laisse les racines se répandre par l'absence de pardon, je donne du terrain à Satan. Littéralement ici, le mot ça dit « ne donnez pas accès à Satan ». Littéralement, ça veut dire « ne donnez pas du terrain ». Vous savez comment que ça marche dans... Si on se combat, puis ceux qui ont regardé la guerre des étoiles, moi, si j'ai grandi avec ça, j'ai été traumatisé dès ma tendre jeunesse, mais donné, ils se combattent l'un contre l'autre dans une fameuse épée, une bataille à l'épée, là, au sabre laser. Puis là, ils disent, j'ai le higher ground, c'est ça que je cherchais, mais en français, j'ai le meilleur terrain. Puis c'est ça, Satan, si on lui donne une place, il est dans une position stratégique d'influencer notre vie, d'avoir une position d'influence. Puis ça, c'est nous qui donne. Si on ne pardonne pas, si on a de l'amertume, si on entretient du péché, si on l'excuse, on donne accès à Satan, on lui donne du terrain, un endroit où est-ce qu'il peut s'installer pour exercer son influence dans notre vie. Donner accès à Satan, une occasion de nous retenir, de nous nuire, de nous pousser dans la mauvaise direction. Par exemple, si vous n'avez jamais pardonné quelqu'un qui vous a blessé, aussi légitime puisse être votre situation, que c'était vraiment une blessure, c'était injuste et tout ça, si vous n'avez jamais pardonné, vous ouvrez la porte toute grande à l'ennemi pour qu'il vous influence, puis qu'il confonde vos pensées, puis amener toutes sortes de tromperies pour vous empêcher de connecter avec la vérité qui libère. Avec l'esprit de liberté. Puis écoutez bien, là. Tant que cette porte-là n'est pas fermée, vous autres, en vous humiliant, en disant... Parce que, oui, vous avez peut-être été blessé, puis que ce n'était pas de votre faute, puis que la personne était méchante, mais si vous entretenez ça, c'est vous qui vous faites du mal, puis vous rendez esclave, puis vous buvez du poison en espérant que l'autre va être empoisonné. C'est ça quand on refuse de pardonner. Et si vous restez là-dedans... Et que vous refusez, je vais le dire, de vous humilier pour obéir à Dieu en pardonnant, parce que là, Dieu, il nous ordonne de pardonner, juste pour que vous me croyez. Là, supportez-vous les uns les autres, Colossiens 3, 13. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Fait que je dis, ah, ça, c'est pas pardonner. Pensez à ce que Christ vous a pardonné. On peut tout pardonner. Maintenant, tant que ça, c'est pas fait, on devient esclave de l'autre personne, de notre propre amertume. Et même si on est exposé à toutes sortes de vérités, même si on entend une série sur la liberté en Jésus-Christ, sur la victoire qui est en lui, savez-vous quoi? Ça n'aura pas son effet, sa puissance, parce qu'on résiste au libérateur. Parce que la vérité qui libère, c'est pas juste une vérité froide dans un livre, c'est une personne. Christ est la vérité. Fait que si dans mon cœur je résiste à ça, je résiste à celui qui peut me libérer. L'importance du pardon, mes amis, c'est incroyable. Puis encore là, tu vois, c'est des blessures qui nous écorchent le fond du cœur. Des fois, c'est des choses qui remontent à loin. Des fois, c'est d'une injustice qui est pas croyable. Mais ça change pas le fait que le pardon, c'est de ne plus retenir cette chose, de l'abandonner à Dieu, puis par la foi, dire, Dieu, je vais te laisser t'en occuper, puis cette personne a fait du mal, je vais te laisser toi t'en occuper. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Puis là, on est libre. On est libre quand ça arrive. Donc, je vous suggère là-dessus, je ne suis pas pour l'introspection, parce qu'on a un cœur tortueux, puis là, on peut tout se mêler nous-mêmes, mais voici ce que la Bible nous dit. Sonde-moi, ô Dieu. Pas l'introspection, mais que Dieu sonde nos cœurs et connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Puis, ça, c'était psaume 139, 23, 24. Psaume 19, 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Donc, on devrait prier ça pour que on puisse redonner à Jésus-Christ l'autorité sur nos pensées, sur nos cœurs. Puis chasser Satan et les forteresses qu'il veut établir dans notre vie. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors ça, c'était le deuxième obstacle. Le premier, c'est la tromperie. Le deuxième, donner accès au diable. Le troisième, ne pas assumer ses responsabilités. Vous savez, la Bible nous dit, c'est clair, que sa divine puissance nous a donné, déjà ses hauts pensées, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a déjà tout donné, les bénédictions. Ça nous dit aussi, on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et on a donc besoin de vivre ces bénédictions, de vivre cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Alors, on n'a pas besoin de demander à Dieu quelque chose de plus. Savez-vous qu'on n'a même pas besoin de Dieu, donne-moi plus d'amour. Parce que l'amour de Dieu est déjà versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. On a besoin de s'approprier puis de vivre selon cet amour qui est déjà versé dans nos cœurs. Puis on n'a pas besoin non plus d'essayer de rechercher une expérience extraordinaire qui va comme un peu nous zapper hors de nos problèmes. Non, c'est une question de connaître ou de reconnaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, saint, qui a déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Puis, on a besoin d'apprendre à mettre ça en pratique. C'est précisément ça le but de la série. On voit ça déjà en long puis en large, mais dans le fond, c'est on a déjà, mais on vit à la lumière de par la foi. On vit selon ça. Rappelez-vous, j'avais donné l'illustration, puis je vais la redonner. Mettons, on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir, ou on entend quelque chose qu'on ne devrait pas entendre. Pour lui d'être là, puis « Ah, là, Seigneur, je ne veux pas regarder. Non, je ne veux pas entendre. Seigneur, merci. » T'sais, on se tourne vers le Seigneur dans simplement « Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, je te choisis toi. » Puis là, quand on se détourne, notre cœur se détourne, parce que c'est possible que cette chose-là qu'on voyait ou qu'on entend, qu'on se détourne, mais notre cœur continue de vouloir entendre. La vraie victoire, c'est quand notre cœur se détourne de ça. Et donc, ça m'amène au troisième élément que j'aimerais qu'on considère par rapport au choix que nous avons à faire face à notre chair. Je résume, le premier c'était les trois types de personnes, le premier élément, le deuxième c'est les obstacles à la croissance spirituelle, et le troisième élément maintenant j'aimerais qu'on considère, c'est on a besoin de choisir de marcher par l'Esprit à chaque jour. Amen. La Bible dit, dans Galates 5:16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. C'est une promesse. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si je marche par l'esprit, ça l'exclut de marcher par la chair, d'accomplir les désirs de la chair. Un exclut l'autre. Ça marche pour aussi pour le bon. Si je marche selon les désirs de ma chair, ben j'attrisse l'esprit. Puis, OK, fait qu'il y a vraiment un choix à faire là. Et lorsque on a résolu de croire à la vérité et de lui obéir, peu importe comment qu'on peut se sentir. Et bien souvent, ça nous joue des tours. Ah, mais je me sens pas très comme ci, comme ça. C'est pas grave. Je veux regarder à ce que Dieu a fait de moi, peu importe comment je me sens. Je suis la parole de Dieu et non pas mes sentiments. Ben, ça va vraiment m'aider à vaincre les obstacles. Mais là, c'est quoi? Fait que là, c'était le côté négatif à vaincre qui va m'empêcher d'avancer. Mais pour être vraiment libre, il faut apprendre c'est quoi que ça veut dire de marcher par l'esprit. Et la clé, c'est de choisir d'obéir à la direction du Saint-Esprit. Puis la direction du Saint-Esprit, c'est toujours selon la parole. Et donc, il faut choisir de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Mais la question demeure, pouvez-vous me dire exactement ce que ça veut dire marcher par l'esprit? Aimez-vous ça que je vous le dise? Je vais vous le dire. Mais pas tout de suite, parce qu'avant, je veux éclairer des affaires. Non, je vais vous le dire à la fin. Mais je vais vous dire ce que c'est pas pour mieux répondre à dire ce que c'est. Parce que des fois, on s'imagine que c'est quelque chose, mais c'est pas ça. Et on va y aller étape par étape. D'abord, ce que c'est pas... Non, parce que vous allez voir, c'est important. Marcher par l'esprit, là, c'est pas juste de bien se sentir. Des fois, ah, là, je me sens tout bien, je suis heureux, je dois marcher par l'esprit. Mais parfois, cet esprit nous affecte, puis nous donne de la joie, puis de la paix, puis c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est bon, là, OK? Mais si on base notre vie sur bien se sentir, puis se sentir heureux, puis que ça devient ça, notre recherche, ça peut être quelque chose de bon, mais savez-vous quoi? Il y a une tromperie. Je cherche la paix, le bonheur, et je ne cherche pas celui qui est ma paix puis mon bonheur. Je cherche une chose et non pas une personne. Je bifurque de 1 degré, mais mettez ça 10 km plus loin, puis tu es complètement dans le champ. OK? Littéralement. C'est qui a dit dans le champ? Ouais, c'est ça. Tu as lu mes pensées. C'est ça. Certains deviennent accros à rechercher une nouvelle expérience, une émotion forte, OK? À rechercher à bien se sentir. Mais leur vie ne porte pas du bon fruit. Et elle ne va pas porter du bon fruit tant qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de ne pas chercher une expérience ou un sentiment, mais de chercher une personne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, marcher par l'esprit, c'est pas de bien sentir. C'est trouver celui qui est notre repos, celui qui est notre joie, celui qui est notre paix. Aussi, marcher selon l'esprit, c'est pas faire juste ce qui me semble bon, ou comme bon me semble. Certains relient la liberté en Jésus-Christ avec la liberté de suivre les tendances de ma chair. Ah, je suis libre en Jésus, je peux faire ce que je veux. Ben, la Bible dit, c'est vrai, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile, puis je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Si ça me rend esclave, j'ai beau être libre de le faire, je ne serai pas plus heureux. Puis en plus, si je pense aux autres, tout n'édifie pas. Donc, c'est ça. La liberté, c'est dans les limites que Dieu a établies. Alors, c'est ça. Dieu, par exemple, a établi le mariage. Puis c'est là-dedans que Dieu a établi toutes sortes de paramètres pour une vie conjugale. Mais si on veut aller en dehors de ça, je suis libre de sortir de là, ben. Si tu sors, tu vas te rendre esclave parce que tu sors du cadre établi par Dieu. Donc, la liberté, c'est pas... Marcher par l'esprit, pardon, c'est pas faire ce qui me semble bon. Parce que oui, peut-être que pour un temps, ça va me permettre de jouir de du péché, mais c'est juste pour un temps. Et le péché va finir par me rattraper et je vais être misérable, comme quelqu'un dans le désert. Et la question à se poser, ouais, mais c'est-tu légitime, je peux-tu le faire? T'es-tu capable d'arrêter? Si t'es pas capable d'arrêter, c'est parce que t'es esclave. Puis tu te trompes toi-même en disant que ça dérange pas, puis c'est soit que c'est une forteresse ou c'est en train d'en devenir une? Parce que tu as toutes sortes de raisons que tu te donnes. OK? Donc, c'est pas ça, marcher par l'esprit. Puis, à l'autre opposé, c'est pas donc le laisser aller. C'est pas non plus une liste de règles. OK? Dans Galates, ça nous parle de ça parce qu'il y avait l'hérésie des églises de Galatie. C'était du légalisme. Ainsi, la loi nous a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Et quand ça nous parle du fruit de l'esprit, là, OK? C'est très bon, c'est beau le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, marcher par l'esprit, c'est pas que la loi est pas bonne, mais ok, que la liste que je me donnerais est pas bonne. Mais souvent, parce que souvent, elle peut être bonne. Okay? Si on a un chrétien mature qui aime le Seigneur, on peut avoir une très bonne liste, on peut s'appuyer sur la bonne loi de Dieu. Mais le problème, c'est que c'est sans vie. C'est juste des instructions, c'est juste une liste. C'est sans vie, c'est sans joie, c'est sans fruit. Et on est sous l'emprise d'essayer de trouver avec ça notre sécurité, notre acceptation puis notre importance dans ce que moi je fais au lieu d'être dans ce que Christ a fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas la bonne liste qu'on pourrait avoir ou la bonne loi de Dieu qui est parfaite. C'est le problème où est ma dépendance, où est ma foi, ma confiance. Est-ce que c'est dans ce que moi je fais, je la fais toute ma liste, ou est-ce que dans ce que Christ a fait? Là, je suis rendu là. C'est quoi marcher par l'esprit? Mais marcher par l'esprit, c'est la vraie liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Satan ne peut pas nous forcer à marcher selon la chair, mais il veut nous influencer. Si je vous dis, « Hey, aujourd'hui, il fait... » C'est quoi la fin de la phrase? Il fait beau. OK? Satan, il peut comme ça nous... Tu sais, il est le tentateur. Il nous amène à quelque chose, puis c'est à nous à finir la phrase, si vous voulez. Il nous amène face à quelque chose, puis oups, il nous reste juste un petit pas à faire, puis on rentre dans... Tu sais, il nous amène la tentation, puis oups, on a juste une petite affaire pour tomber dedans. OK? Mais la vraie liberté, c'est de marcher dans la liberté du péché, de la tromperie, de ma chair, de ma justice propre. Donc, Satan veut essayer de m'influencer, mais en Jésus-Christ, nous qui sommes le peuple de Dieu, créé pour lui, nous pouvons choisir de vivre par la foi dans la puissance de l'Esprit pour vivre la vraie liberté. C'est quoi vivre la vraie liberté? C'est la liberté d'aimer ceux qu'on n'aurait pas le goût d'aimer parce qu'ils nous énervent. C'est la liberté de pardonner quand ça fait mal. C'est la liberté de faire du bien alors que j'aurais le goût de juste penser à moi puis de faire ma petite affaire. C'est la liberté d'être généreux. C'est ça la liberté. C'est la liberté de faire du bien, de bénir les autres, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est ça la liberté. C'est pas la liberté de faire tout pour moi, puis tout le monde est sujet dans mon royaume et je suis le grand roi. C'est la liberté d'être esclave de Christ, c'est lui le roi. Puis à travers nous autres, il bénit, puis il fait toutes sortes de choses, puis nous, waouh, on voit ça aller, puis là, on a cette liberté de voir son esprit qui est à l'œuvre. C'est ça, marcher par l'esprit, c'est la liberté de ne pas avoir ce fardeau, cette lourdeur, cette pesanteur. Fait que si pour vous, marcher par l'esprit, là, c'est un fardeau, puis c'est lourd, puis c'est donc compliqué, ben, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une liberté là-dedans, il y a un fait bon vivre dans la marche par l'esprit. Mais la marche par l'esprit, c'est aussi être dirigé par l'esprit, être contrôlé par l'esprit. Dirigé, Jésus a dit, c'est pas plus compliqué, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et on a vu ce matin, hein, le Saint-Esprit, c'est son ministère. Il rappelle les paroles de Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité. Donc, quand on lit la Bible, le Saint-Esprit nous dit, ah, ça, c'est pour toi. Oh, ça, je te rappelle ça. Tu as besoin de ça par rapport à telle chose dans ta vie. Donc, marcher par l'Esprit, c'est être dirigé par l'Esprit, être contrôlé par l'Esprit. Je vous lis à ce sujet-là, Romains, 8-14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. une caractéristique des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont conduits, sont dirigés par la parole, par l'Esprit de Dieu. Et je dirais là-dessus, sont conduits, sont dirigés. Le Saint-Esprit ne nous pousse pas contre notre gré. En anglais, ils disent « kicking and screaming », comme s'ils nous tirent par les cheveux, là, comme les pithèques, là, les cro-magnons. Tu sais, le monsieur avec sa femme qui tire par les cheveux. Là. Moi, c'est pas trop jojo. Je pense pas, en tout cas, j'espère que les humains n'ont jamais été de même. Là. Mais tout ça pour dire que c'est pas comme ça que le Saint-Esprit marche. Le Saint-Esprit, quand on marche avec lui, ça va être volontaire, ça va être joyeux, ça va être de venir à Christ, puis de prendre son joug qui est doux puis léger. OK? Puis ça va être aussi au rythme de Dieu. Être dirigé par Dieu, c'est pas nécessairement dans notre temps. Puis c'est pas non plus à notre façon, c'est sa direction. C'est lui qui dit, là, tu vas là, puis tu y vas comme ça. Nous, on serait peut-être allé en Formule 1, puis par le chemin le plus court, mais Dieu nous fait aller en trottinette par un chemin plus long. Puis c'est lui qui décide, c'est Dieu, puis sais-tu quoi? Si on y va en trottinette par le chemin le plus long, c'est parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est notre bon berger qui a décidé que c'était ça qui était le mieux pour nous autres. C'est ça, être dirigé par l'Esprit. Tu sais, des fois, on met ça en espèce d'affaire mystique. Là. Hey, moi, je suis dirigé, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est rien de bizarre. En fait, être dirigé par l'Esprit, une autre bonne façon, je disais, tu sais, faut que ça soit léger et tout ça. Puis si c'est trop logique, c'est tout comme moi j'aurais fait, puis que. Ben, c'est probablement pas par l'esprit, c'est probablement juste la façon que notre chair a appris à dealer avec les affaires puis à être confortable dans faire les choses nous-mêmes, selon notre propre sagesse, selon comment nous, on aime les choses. Parce que le Saint-Esprit souvent nous amène à faire les choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Aller s'humilier devant Dieu, devant quelqu'un. Être reconnaissant quand on aurait le goût de chialer, de se prendre en pitié. De juste dire merci. C'est contre nature. C'est, le Saint-Esprit nous dirige comme ça. Et pour reprendre l'image hein, de l'attelage, hein, le joug, lorsqu'on partage le joug avec Christ, les deux, on marche ensemble. Puis en passant, M. Flanders nous avait donné l'illustration. C'est Jésus qui prend le gros du poids, puis tout ça, comme lui il disait, des fois avec mon fils, on avait des grosses tables lourdes qu'on prenait pour les réunions de communion fraternelle. Puis là, mon fils était tout petit, il prenait son bout de la table, puis moi je prenais l'autre, puis il dit, ben je me tassais un peu plus de ce bord-là, puis moi je prenais le gros de la charte, puis sur mon petit gars de 5 ans, lui il pensait qu'il en soulevait pas mal, mais il faisait un peu, tu sais, il aidait son papa, mais tu sais quoi, c'était plus la communion, puis d'être avec papa que. Puis c'est comme ça aussi le joug avec Jésus, c'est lui, tu sais, on se décharge sur lui, sa grâce est suffisante, mais il donne le privilège, pareil, de prendre notre petit bout de table, pareil, puis de lever un petit peu, parce que ça fait partie de la joie d'être un enfant de Dieu. Puis on a notre part qu'on fait, et Dieu veut qu'on la fasse. Faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse tout, puis on doit pas en plus se mettre le fardeau sur les épaules de nous autres tout faire. C'est les deux ensemble. Donc c'est ça aussi marcher par l'Esprit. C'est faire notre part, c'est-à-dire par la foi, Dieu nous demande de le faire, de nous humilier, de là faire ça, on le fait. Mais aussi, c'est s'attendre à ce que Dieu va nous rencontrer là quand il nous demande de le faire. Il nous demande d'ouvrir la bouche devant quelqu'un pour lui, ben il va nous donner les mots, il va nous donner la confiance au moment même. On le fait, mais c'est lui qui embarque, qui fait le vrai travail, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Et savez-vous quoi? C'est réconfortant parce que Dieu connaît le bon rythme. Dieu connaît la bonne direction. Notre rôle, c'est juste de le suivre, d'y faire confiance, d'écouter sa voix, puis de dépendre de sa force, puis de sa sagesse. J'espère que ça vous aide un peu plus à comprendre c'est quoi que ça veut dire de marcher par l'Esprit. Et donc, si je l'amène d'une autre façon, pour répondre à la fameuse question que ça veut dire de marcher par l'Esprit, ben, par nos choix face à notre chair. Si je décide d'y céder de ma chair, puis que je l'excuse, puis je trouve ça, ben, je marche pas par l'Esprit. Puis comme Jésus l'a dit, ben, on reconnaît un arbre à son fruit. Et c'est quoi le fruit de l'Esprit? Je l'ai dit tantôt, je le répète. En fait, je pense que je l'ai réécrit ici. Le fruit de l'Esprit... C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. si je marche par l'esprit, ces choses-là vont grandir dans ma vie. Mais si je marche par la chair, l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui va grandir dans ma vie? Comment ça, je ne l'ai pas écrit? Les œuvres de la chair. OK. Ça va être la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Elle est longue, la liste. Est pénible, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. C'est même pas exhaustif, c'est comme d'autres affaires aussi de même. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc si ça, ça l'augmente dans ma vie, ça veut dire que je marche par la chair. Mais si je marche par l'esprit, j'accomplis pas les désirs de la chair. Donc le fruit de l'esprit va augmenter, puis les œuvres de la chair vont diminuer. Et les deux sont évidents, les deux sont manifestes. Vous n'allez pas être seul à vous en rendre compte, les autres aussi. Puis un grand piège, des fois qu'on essaie, on essaie d'imiter. Vous savez quoi? Satan, c'est un grand imitateur. Il va essayer, par la chair, d'imiter le fruit de l'esprit. C'est comme si on prenait un pommier, là, puis on y mettait tout avec du beau scotch tape, des pommes en plastique. Ah, ça peut avoir l'air beau à 3 km, tu vois ça de loin, mais essayer de goûter une pomme, c'est pas bon. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de produit autre. C'est l'authentique et l'authentique seul. La marche par l'esprit, c'est authentique. Ça ne s'imite pas. Et si on essaie d'imiter, on va juste être plus misérable. Ça ne va pas porter du bon fruit. Donc, je termine avec cette invitation-ci. Peut-être que le Saint-Esprit a pointé un domaine de ta vie où tu es dirigé par ta chair en ce moment. Qu'est-ce que tu devrais faire? Confesse-le. Reconnais là où tu as laissé du terrain à Satan pour qu'il bâtisse une forteresse. Toutes sortes de pensées, d'excuses, de raisonnements. Où est-ce que tu as cédé à l'ennemi? Mais humilie-toi puis invite le Saint-Esprit à prendre la place que tu laisses maintenant à Jésus-Christ, le libérateur. C'est pas plus compliqué que ça. Autrement dit, humilie-toi, repens-toi et crois à la délivrance de Dieu. C'est pas plus compliqué, mes amis. C'est pas plus compliqué, mais c'est vrai, c'est beau, puis c'est la liberté. Oh, mes amis, c'est merveilleux. On te remercie, Seigneur, de ce que ta parole est la vérité. Tu es la vérité, tu es le grand libérateur. Seigneur, devant toi, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui t'impressionne, Seigneur, on n'a rien pour t'impressionner, mais c'est impressionnant de voir comment toi, tu es patient, comment tu es plein de grâce à des personnes souvent tellement têtues comme nous autres, lents à comprendre, lents à croire. Tu nous fais grâce, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Merci, Seigneur. Et Seigneur, avec ce que tu as montré à chacun aujourd'hui, qu'on ne fasse pas la sourde oreille, qu'on arrête les excuses, mais que simplement on vient à toi comme étant la solution, comme étant la libération de ces problèmes, comme étant la joie et la paix. Seigneur, c'est en toi. Merci qu'on n'a pas besoin de trouver une formule, de tout faire de la bonne façon. On a juste besoin d'aller à toi, même si on le fait de la mauvaise façon. Quand on va à toi, on va à la bonne place. Merci que c'est pas plus compliqué que ça. Seigneur, on vient avec toi, à toi humblement, et croyant que tu rémunères ceux qui viennent à toi comme ça, pour être libérés. Dirige ce temps, Seigneur, de réponse à ton appel à Jésus-Christ, à la liberté qui est en lui. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.